Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 28e épisode, nous parlerons de la série américaine Game of Thrones en compagnie de Léa, une fan pour qui les livres, comme la version télévisée de cette saga fantastique, n'ont plus aucun secret. Ensemble, nous allons parler du traumatisme collectif qu'a été la saison finale de Game of Thrones, mais aussi de l'amour que porte depuis toujours Léa aux personnages de cet univers, en particulier Jaime et Daenerys. Nous discuterons aussi de l'atmosphère parfois toxique qui peut régner au sein des communautés virtuelles de fans. Et bien sûr, nous n'oublierons pas de mentionner House of the Dragon, la toute nouvelle série dérivée de l'univers de Game of Thrones. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 28e épisode. Très bonne écoute à tous. Et ben Léa, comment vas-tu?
Ça va, merci, et toi?
Ben ça va très bien. Et tu d'attaque?
Toujours d'attaque, de bon matin, ça fait plaisir.
Toi, en fait, t'es fan de Game of Thrones depuis combien de temps?
Je pense, si je me souviens bien, je crois que je devais avoir 15 ans. J'ai commencé parce que j'avais mes camarades de classe qui regardaient tous Game of Thrones et ils n'arrêtaient pas d'en parler tout le temps. Et ils me disaient, faut que tu regardes, c'est incroyable. Et moi, je me disais, ouais, bof. Et au final, je me suis laissée tenter et je crois qu'il y avait 5 saisons qui étaient sorties et je me les suis faites en 2 semaines.
Ah ouais?
Ouais, et après je me suis dit pourquoi pas lire les livres en attendant.
Mais pourquoi tu te disais bof avant? Qu'est-ce qui te tentait pas tellement?
C'était pas tellement le plot ou quoi, c'était juste la réflexion un peu ridicule, genre bon bah tout le monde regarde, j'ai pas envie de regarder. Et puis je me disais bon ça a l'air un peu trop sanglant, trop guerrier, ça doit pas voler très haut quoi. Je me suis trompée, je suis désolée.
Mais c'est drôle parce que la plupart des séries que tout le monde regarde, il y a une raison en fait. C'est qu'elles sont vraiment bonnes, mais on a toujours une sorte de méfiance en mode ah, tout le monde regarde, c'est mainstream.
Ouais.
Moi j'ai mis du temps à regarder White Lotus à cause de ça, Stranger Things aussi.
Ah bah tu vois, j'ai pas regardé White Lotus.
Ah, ben ça va te plaire. Je suis juste la 101ème personne à te conseiller cette série.
Ok, je regarderai peut-être.
Et dans Game of Thrones, qu'est-ce qui t'a accroché d'emblée?
Je pense que c'était vraiment l'univers en fait. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'action en fait pour rendre la chose intéressante. Enfin, c'était vraiment bien écrit et c'était super intéressant à chaque fois, tu vois. C'était un plaisir de les entendre parler et puis je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Daenerys parce qu'elle est dans un autre continent, on ne comprend pas trop. C'était vraiment sur les dialogues. Ça m'a frappé.
Puis c'est très immersif aussi.
Oui.
Je sais que tu pourrais regarder ça en mute et puis juste être vraiment subjugué par les décors, par les costumes. Tu sens qu'il y a du budget qui a été mis là-dedans.
Ah oui, complètement.
Qu'est-ce que, à tes yeux, Game of Thrones a su faire de mieux, de différent ou de plus original par rapport aux autres séries?
Comme t'as dit, c'est très immersif. Et au fil des saisons, je trouve que tu t'attaches vachement à ces personnages, à l'univers, au lieu. Tu vois, par exemple, Théon qui prend Winterfell, bah, tu te sens en mode « mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi ?» Et plus tard, quand les Stark récupèrent Winterfell, bah, tu te sens « oh, enfin, en fait !» C'est ta maison, tu vois. Et je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose où tu t'attaches à tout le monde, même les personnages où tu pensais que t'allais toujours les détester. Par exemple, Jaime Lannister, au début, c'est un petit con. Et au fur et à mesure, il va changer et tu vas t'attacher à lui. C'est ça qui a fait que, pour moi, Game of Thrones, ça reste au-dessus. À regarder les effets spéciaux et tout pour l'époque, franchement, y a rien à dire, c'est magnifique et tout, t'en as plein la vue. Et le script, pour moi, jusqu'à la saison 6, tout va bien, j'ai rien à dire. Les personnages auxquels tu t'attaches, ils vont potentiellement mourir et ils vont toujours évoluer, alors que ce soit dans le bon ou le mauvais, tu vois. Et je trouve que c'est bien là-dessus.
Game of Thrones, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Quelle place
place ça a dans ton cœur, Léa ?
Ça a une grosse place. Tu sais, je saurais pas l'expliquer. Parce que je m'attendais pas à, tu sais, m'attacher autant à cet univers. Parce que moi, je l'ai commencé parce que, bon, tout le monde me tannait. Ouais, vas-y, vas-y. Pour moi, Game of Thrones, je pense qu'on fera pas mieux. Même House of the Dragon, tu vois, c'est le préquel. C'est pas au-dessus, quoi. Quand je pense à la série dans la totalité et à l'univers et tout ça, de manière générale, je ressens de la nostalgie et puis je suis, ça y est, on va faire les bilingues là, grateful.
Reconnaissante.
Voilà, merci. Excusez-moi.
Je parle deux langages.
C'est compliqué, désolée. Mais ouais, je suis contente, je regrette pas de l'avoir regardée, même avec la fin qu'elle a eue. Et ouais, ça me manque.
Est-ce que c'est une nostalgie qui fait que quand tu t'y remets, tu te sens bien ou est-ce que... Parce que moi, il y a des séries que j'ai tellement aimées. En fait, c'était tellement proche de moi que je pourrais vraiment plus les regarder. Ou alors, il faudrait que du temps passe. Ouais, par exemple, ben, Beef, je me suis tellement reconnue dedans que je pense pas que je m'y remettrai de sitôt, en fait. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ?
Alors, après la saison 8, franchement, j'ai eu vraiment... En fait, c'était super bizarre parce que j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Vraiment, vraiment, j'étais dégoûtée. Et ça m'a vraiment touchée. Comme si c'était, je sais pas, Game of Thrones, en gros, c'était quelqu'un que je connaissais, tu vois, et qui m'a planté un couteau dans le dos. De dire ça, c'est un peu ridicule, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal, et pendant longtemps, j'ai dit, c'est fini, je lis même plus les livres, je regarde plus. Ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient faire un préquel, et j'ai dit, mais c'est mort, je regarderai pas, je m'en fous, ça me dégoûte, en fait. En fait, c'était comme un deuil, tu vois, le temps a passé, je me suis calmée dans ma colère, dans ma tristesse. Moi, j'ai toujours pas accepté parce que franchement, voilà. Mais j'ai regardé la série depuis le début, je sais plus quand est-ce que c'était, pendant le confinement. Et d'un côté, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'était quelque chose. Et de l'autre, ça m'a rendu super triste parce que je me suis dit, mais tout ça, pour ça.
Et le ça, c'est la saison 8, pour un peu expliquer aux gens qui savent pas. Donc la saison finale de Game of Thrones qui, si on en croit l'avis de 98% des fans, a été un carnage.
Horrible. Ah, la pire humiliation de ma vie, vraiment, je peux pas.
Ce serait qui le personnage le mieux écrit de la série ?
Jaime Lannister. Je trouve que son arc est le seul bien écrit du début jusqu'à la fin. Parce que Jaime Lannister, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit con au début. Bon voilà, on se dit, celui-là, je veux qu'il crève. Et évidemment, il ne va pas crever d'aussitôt.
C'est la règle d'un Game of Thrones. Plus le personnage est détestable, plus il va survivre longtemps. Il sera même éternel.
C'est vrai.
Mais pourquoi est-ce que c'était un petit con ? Pour expliquer un peu.
En fait, il représente bien le Lannister, tu vois. Les Lannister, c'est des gens qui sont hautains, qui se pensent vraiment au-dessus de tout le monde. Et voilà, il se prend un peu pour un prince. Et puis du coup, au fil des épisodes, au fil des saisons, tu te rends compte que, en fait, Jaime, c'est pas ce que tu pensais qu'il était, au final. Parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Il s'entend pas avec les Stark, mais il a promis quelque chose à Catelyn Stark. C'était de ramener Sansa à Winterfell. Il va honorer sa promesse, alors qu'en soi, il lui doit rien aux Stark. Hein. Il rentre chez lui et puis on s'en fout, quoi. Mais il va le faire. Et il va protéger aussi Brienne. Il est pas obligé non plus de le faire. Mais voilà, on découvre une autre facette. Et puis... tout le monde l'appelle au début, le régicide parce qu'il a tué le roi Aerys. Et au final, on comprend pourquoi il l'a tué. C'est pas parce que, je me fais un kiff, j'ai envie de tuer le roi. C'est parce que Aerys, il était fou. Et parce qu'il menaçait de brûler son père Tywin Lannister. Et donc, Jaime le fait pour protéger son père, sa famille. Puis tu t'attaches à lui, il est quand même... Je sais pas, j'adore Jaime, moi. Je peux pas le critiquer, c'est mon fils. Je l'aime trop.
Ce serait quel arc narratif qui t'a le plus marqué ?
Ah, je pense que c'est... Ouais, c'est Daenerys. du début à la fin, en fait. J'adore ce personnage. Et c'est le fait, bah voilà, elle part de rien. Elle n'a rien, elle est exilée. Essos, c'est pas sa maison. Elle veut juste rentrer chez elle. Mais pas forcément pour être reine, puisqu'au début, elle est avec son frère Viserys. Bah, elle se fait violer par son mari. Enfin, tu vois, il y a un peu un syndrome de Stockholm qui vient s'installer. Elle n'a pas une vie de rêve. Et puis au fur et à mesure, elle va commencer à répondre à son frère, à plus avoir peur, à plus se laisser faire et à devenir vraiment une reine, tu vois. Moi, j'ai adoré voir son évolution. Elle part de rien, ensuite elle a des dragons, ensuite elle fait ci, ensuite elle fait ça. Elle fait des erreurs, mais elle veut pas être comme son père, elle a pas envie d'être comme ça. Et elle écoute les gens.
C'est vrai qu'on la voit qui est toute timide au départ. Pas timide, mais presque. Elle est presque à l'extérieur de son propre corps. Elle subit un destin, en fait, qu'elle a juste jamais voulu.
Exactement, ouais.
Et puis ensuite, elle entre vraiment dans. Bah, finalement, dans ce destin, et elle se rend compte que, ouais, c'est ça, en fait, qui l'attendait, tu vois. Tu sais, tu la vois devenir reine. Comme elle n'a pas été reine dès le départ, c'est tout un apprentissage. Genre, tu la vois bah, déjà se faire accepter du peuple qu'elle veut gouverner, puis ensuite avec ses dragons qui grandissent à ses côtés, puis en fait c'est vraiment très très progressif, et c'est ça aussi que j'aime bien dans l'écriture de Game of Thrones, c'est que c'est très progressif. Tu penses que certaines choses vont juste jamais mener à rien, parce que quelquefois c'est super lent.
Ah oui,
et puis d'un coup paf, genre t'as toutes les pièces du puzzle qui se mettent ensemble, et t'es là genre oh, en fait ça c'était pour ça, et ça c'était pour ça, et ça c'était pour ça.
Exactement,
c'est nice.
Et vraiment avec Daenerys c'est flagrant, en fait, parce que une fois qu'elle commence un peu à se libérer et qu'elle a ses dragons, justement à la fin tu te dis ok, ça va arriver, pas maintenant mais ça va arriver, parce que elle aurait pu rentrer depuis longtemps à Westeros en soi, mais elle a eu l'intelligence de se dire on va attendre quand même un peu, et puis surtout on va apprendre à gouverner, et il y a des choses qui lui plaisent pas en Essos, comme l'esclavage, et donc elle va rester et elle va pas partir. Voilà, ça montre qu'elle a aussi, j'ai envie de dire un bon cœur, mais tu vois ce que je veux dire.
Elle a une intelligence émotionnelle.
Ouais, voilà.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'inceste dans Game of Thrones?
Oh mon dieu.
Que se passe-t-il à ce niveau-là?
Bah, ça commence avec les Targaryens. Donc, c'est une famille, bon bah voilà, on les présente plus, l'inceste c'est normal. Tu veux pécho ta sœur, ton cousin, ton oncle, c'est tout à fait normal. Parce que les Targaryens, en fait, bah ils ont des dragons. Mais pour contrôler les dragons, c'est dans leur sang, tu vois, ou pas? Et donc, c'est tout un truc magique avec ça, et pour les contrôler, parce que du coup, avec leurs dragons, ils ont un lien particulier qu'ils se créent. C'est-à-dire que ton dragon est capable de ressentir les émotions de son Dragon Rider. Donc, il est capable de ressentir l'amour que celui-ci va éprouver pour quelqu'un, et tout aussi bien la haine qu'il éprouvera pour quelqu'un aussi. Ton dragon va pouvoir ressentir tout ça. Ils l'ont fait un peu dans Game of Thrones, mais c'était pas... En fait, la seule fois où ils le montrent, c'est quand Daenerys a besoin, enfin est en danger dans la saison 5, il me semble. Elle est dans une arène et elle se fait attaquer, et franchement, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'espoir, quoi. Et son dragon est loin. Et en fait, au dernier moment, il arrive et la sauve parce qu'il a senti qu'elle était en danger. C'est quand même incroyable. Et pour en revenir aux Targaryens, bah en gros, déjà on se marie entre nous bah pour garder ça dans la famille, ce petit truc dans le sang qui fait que les dragons sont avec toi. Et aussi, bah, tu sais, c'est tout le délire de faut garder la lignée pure et machin et machin. C'est comme dans Harry Potter, chez les sang-purs, tu sais. Bah, la famille Black, ils sont tous un petit peu... ouais, ils aiment bien aussi, je crois, il me semble.
C'est quoi la meilleure saison à tes yeux?
Alors, c'est soit saison 4, soit la saison 6.
Trigger warning saison 4. Alors là.
Ah, la saison 4 est incroyable, hein. Franchement.
C'est la saison qui m'a fait arrêter Game of Thrones.
On se demande pourquoi.
Parce que un personnage qui, à mes yeux, est le meilleur personnage que Game of Thrones ait jamais eu. Il vient, il illumine absolument toutes les scènes dans lesquelles il apparaît et il se fait tuer au dernier épisode. Et j'étais là genre, that's it. C'est fini pour moi. Et en plus, c'est moi qui suis naïve. Franchement, c'est moi qui suis bête dans l'histoire. Parce qu'on peut pas regarder Game of Thrones et s'attacher à des personnages et ne pas envisager leur mort soudaine.
Bah oui.
C'est ça, mais j'ai regardé avec de l'optimisme. Faut jamais être optimiste quand on regarde Game of Thrones.
Tu vas voir à chaque fois.
Et puis j'ai dit, ok, c'est fini pour moi.
Bah la saison 4, déjà, en termes d'écriture, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. Alors l'écriture, elle est incroyable. Tout est ficelée, enfin je sais pas, elle est magnifique cette saison. Je pense notamment le procès de Tyrion qui dure et dure et dure et sa tirade lors de son procès quand il pète un câble, mais elle est magnifique. Je la connais par cœur d'ailleurs. Puis la saison 4 commence avec Geoffrey qui est mort, c'est ça, non ?
Il meurt le premier épisode. Ah, c'est pour ça que j'ai autant aimé aussi. Ça commence vraiment sur une note positive.
Oui, c'est son mariage avec Marjorie Tyrell. Et donc, il boit son vin et s'étouffe.
Et c'est tout.
Et meurt. Et là, tout le monde est content. Ouais !
La fête continue.
La fête continue, exactement. Et donc, Cersei accuse Tyrion d'avoir tué Geoffrey. Voilà, on part là-dessus. Et du coup, on reste vachement longtemps à... en français, c'est Port-Réal. Et moi, j'adore être... En fait, j'adore être avec les Lannister, personnellement. Parce que je trouve que c'est les personnages qu'ils ont le mieux écrit de manière générale aussi, encore une fois. Et dans la saison 4, c'est encore plus parlant. Surtout avec Tywin Lannister. Alors moi, j'adore Tywin Lannister, qui est le père de Jaime Cersei et Tyrion. Et dans cette saison 4, moi, je trouve qu'il brille. Enfin, il est super intelligent. Et donc, on arrive au point un peu culminant de la saison, c'est-à-dire le procès de Tyrion. Alors là, mais moi, je l'ai vécu comme si c'était mon procès également. Hein. Moi, je me sentais pas bien. Hein. Je me suis dit, à tout moment, je coupe la tête. Et tout ce moment du procès, en fait, j'y pense à chaque fois, parce que c'est vraiment le moment qui m'a marqué. C'est d'une intelligence. Et même la tirade de Tyrion, tu sens la rancœur et le mépris qu'il a pour les autres en cet instant, alors que depuis le début, il essaye vraiment de... Bah, comme il le dit, je vous ai sauvés quand Stannis a débarqué pour tous nous zigouiller, et c'est comme ça que vous me remerciez. Pour vous, j'ai toujours été en moins que rien. Et il le dit, vous voulez pas m'arrêter parce que j'ai tué Geoffrey, c'est juste parce que je suis, comme il le dit, un nain, tu vois. Et en soi, il n'a pas tort, c'est clairement pour ça. Et je sais pas, j'ai trouvé vraiment très intelligent la manière dont... il le fait, en fait, c'est clairement « je pète un câble, j'en ai marre de faire l'hypocrite, vous me saoulez, donc je vais vous dire vos quatre vérités, et basta, c'est pas grave, c'est comme ça. »
S'il fallait montrer une saison de Game of Thrones...
Ouais, ce serait celle-là, je pense.
Ce serait celle-ci. Ce serait même pas la saison 1, parce que tu mets du temps à rentrer, tu vois. Maintenant, tu peux apprécier la saison 1 en ayant vu toutes les autres saisons. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ont décroché parce qu'ils se sont dit « Ah, mais l'histoire, elle prend du temps. Hein. » Mais Game of Thrones, c'est sur une base de lenteur. Donc, une fois que t'as compris ça, tu fais un peu la paix avec. Mais au départ, t'es là genre « Mais il n'y a rien qui se passe, en fait. »
Bah oui, parce que c'est très, très lent. La saison 1, moi aussi, j'ai failli décrocher, mais je me suis dit « Non, allez, vas-y, il faut le faire. » Et en fait, c'est quand t'arrives à l'épisode 9 que tu te dis « Ah oui, c'est ça, Game of Thrones, en fait. » Ça, c'est toujours lent, mais ça se réveille un peu. Et tu te dis, oula, en fait, personne n'est en sécurité dans cette série. Parce que du coup, tu pensais que le personnage principal, c'était Ned Stark. Et jusqu'au dernier moment, tu te dis, non, ils ne vont pas le tuer, Ned Stark, c'est le personnage principal. Et bah si.
Ouais, non seulement il le tue, puis il te monte bien sa tête.
Bah ouais.
Mais du coup, je me demande, est-ce que justement cette lenteur, elle n'est pas due au fait que les livres en eux-mêmes soient super denses, super lents, j'imagine, à développer la trame? Est-ce que c'est calqué sur les livres?
Oui, littéralement, parce que dans les livres, oh là 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 là, il y a tellement de trames, de détails, de ci, de ça, qu'ils n'ont pas pu mettre dans la série, ce qui est normal, parce que c'est trop, et je pense que dans une série... on se serait un peu perdu, parce que déjà dans les livres, je me perdais un peu, mais ça va. Et donc, vu que c'est très très lent dans les livres, et puis voilà, faut poser les bases, et faut bien expliquer tout ce qui se passe, bah dans la série, forcément, ça fait pareil. Parce que même dans la série, quand tu la regardes avec la lenteur qu'elle a, Des fois, c'est dur de comprendre des choses parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux, il y a ça qui se passe, il y a ça, il y a ça, il y a tout en même temps, tu vois. Et tout ça est fait pour qu'après, à la fin, tous ces personnages se retrouvent au même endroit, dans la même pièce. Et donc, forcément, il faut prendre le temps de développer les Stark, les Lannister. Après, Daenerys de son côté, il faut comprendre, tu vois, qui est qui fait quoi. Et en plus, toutes ces maisons, elles se connaissent et elles ont des conflits entre elles. Les Lannister et les Stark, ils peuvent pas se blairer, faut que tu comprennes pourquoi. Les Greyjoy, c'est compliqué. Les Targaryens, bon bah eux, faut vraiment qu'on les tue tous. Et après, t'as la maison Baratheon, qu'est-ce qui va pas? Et puis ensuite, t'as les Tyrell qui se ramènent. Et puis t'as les Martell avec Oberyn qui se ramènent aussi, tu vois, il faut... Oui. Ton chouchou. Une fois que j'ai compris pourquoi c'était lent, ça m'a pas dérangée parce que je trouve ça mieux même.
Et à quelle différence majeure entre les livres et la série?
Les livres sont... un peu plus fantastique, je dirais. Dans Game of Thrones, on ignore... Enfin, la série, du coup. On ignore vachement le côté... c'est magique. Et dans les livres, on prépare... Enfin, George, il... Enfin, l'auteur, du coup. Je l'appelle George, c'est mon pote. Hein. Il tease vachement, en fait, la rencontre entre Daenerys et Jon. Ça passe par plein de... Tu sais, de parallèles et des choses comme ça. Et dans la série, je vous trouve qu'on n'a pas du tout ça. Et c'est dommage parce que, en fait, la série de livres, ça tourne autour de leur rencontre en soi.
Ça, c'est pas rendu évident dans la série. Est-ce que c'est obligatoire pour comprendre la série?
En fait, je peux pas te dire parce que même dans les livres, ils sont pas finis. Donc je sais même pas comment il va faire ça. Mais c'est vrai que dans les livres, c'est plus... tu le remarques, quoi. Ça rajoute un petit truc qui est intéressant. Après, dans la série, non, c'est pas, ça va pas changer grand-chose. Vu comment ils l'ont fait, ça change rien. Mais c'est dommage.
J'ai jamais, ce qui est étrange, mais j'ai jamais lu un seul tome de Game of Thrones. Et du coup, je me demandais... parce que c'est de la littérature jeunesse. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de littérature jeunesse, Game of Thrones?
Ah, je sais. Je sais pas.
Non, en fait, non, du tout, parce que les thèmes sont quand même...
Oui, voilà. Game of Thrones, enfin, les livres sont très, très sombres comparés à la série. Alors, dans les livres, c'est pas la même ambiance. Hein.
C'est pire encore.
C'est pire, et puis surtout, faut avoir le courage de le lire. Bah, par exemple, Daenerys, dans les livres, quel âge elle a? 13 ans?
Oh, that's not good.
Bah ouais.
Je suis en train de revoir la saison 1.
Ouais, tu vois, ça change. Et en plus, Jorah, dans la série, alors autant je l'adore, hein, mon chouchou, mais dans les livres, c'est pas la même ambiance encore une fois. Hein. C'est très très...
C'est le bras droit de Game of Thrones. De Game of Thrones. De Daenerys.
De Daenerys.
Il est comment dans les livres?
Ah, il est très pervers. Très sombre. C'est pas le même Jorah. Je l'aime pas du tout dans les livres. Très bizarre. Hein. Donc les livres, c'est vraiment pas la même ambiance. Et dans certains cas, je préfère un peu la série pour ça. La série reste quand même très très violente. Il y a des... moments qui sont très durs à voir aussi, qui sont pas non plus dans le livre pour le coup. Donc tu vois, c'est marrant mais pas dans le bon sens. C'est qu'il t'enlève des trucs du livre qui sont pas terribles et dans la série, il t'en rajoute d'autres qui ne servent à rien quoi. Comme par exemple, je pense à Sansa qui se fait, du coup, qui épouse Ramsay Bolton. Et elle se fait, on va dire les termes, hein, violée par lui, mais ça, c'est pas dans le livre, tu vois. Donc ça rajoute aussi des trucs un peu comme ça, et ça sert à rien.
Justement, j'allais te demander s'il y a des aspects qui étaient mieux adaptés, en fait, selon toi, dans la série que dans les livres.
Bah, moi, j'ai bien aimé voir à la télé les noces pourpres, l'adaptation, tu vois, de ce moment. J'ai trouvé que ça collait vachement parce que dans le livre, ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Il y a une phrase, je sais plus c'est quoi en français exactement, mais c'est « Personne ne chantait les mots, mais Catelyn Stark reconnut les pluies de Castamere. » Et les pluies de Castamere, tu sais, c'est la chanson qu'ils aiment bien chanter les Lannister. Dans la série, tu l'entends l'air, tu sais, c'est « nanana, nanana, nanana ». Et tu vois son regard, et c'est à ce moment-là, quand elle l'entend, qu'elle comprend que c'est mort. Ça va mal finir. J'ai adoré voir ça et je trouve qu'ils l'ont super bien fait.
Je t'écoutais, j'essaie de me rappeler de la chanson. J'avais une toute autre chanson en tête. Non, 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 non. Je pense même pas que ce soit dans Game of Thrones.
Non, je crois pas, ça me dit rien.
Toi, tu poses quel regard en fait sur la violence dans Game of Thrones ?
Je trouve que des fois, c'est justifié. Bon, par exemple, quand t'as des guerres ou des conflits, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est très très gratuit. Et surtout, c'est un truc qui leur a été reproché. Ils ont voulu corriger ça avec House of the Dragon, mais bon, ils l'ont mal fait au final. C'est la violence faite aux femmes. Elle est totalement gratuite. D'un côté, tu veux être réaliste, oui. Dans la réalité des choses à cette époque, les femmes, c'est pas, elles sont pas traitées convenablement. Mais d'un autre côté, montrer ça à la télé, je trouve que des fois c'était vraiment gratuit. Hein.
Mais surtout Sansa.
Bah oui, ouais, c'est à elle que je pense. Je sais plus c'est quelle saison, mais c'est avec Geoffrey, tu sais. Il l'humilie, il lui arrache sa robe. Enfin, c'est pas lui, mais il demande à son garde là de lui arracher sa robe devant tout le monde. Et de lui mettre une gifle. Et puis même aux prostituées aussi. Tu sais, Geoffrey, il est avec deux. Il les maltraite, mais ça, c'est totalement gratuit aussi. T'as pas besoin de montrer en train de le faire pour comprendre qu'il est fou. Même Cersei, en fait, elle a la marche, on appelle ça la marche de la honte. Elle est déshabillée, on lui a coupé les cheveux et elle doit marcher nue dans les rues de Port-Réal. Et tout le monde lui balance des tomates, lui crache dessus, l'insulte. Et moi, franchement, ça m'a fait trop de la peine pour elle. Et ça m'a choquée de voir ça. Et de voir qu'il y avait des gens qui regardaient et qui se réjouissaient de ce moment. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de glorieux. Parce que, ok, Cersei, c'est quelqu'un qui est détestable. Enfin, moi, personnellement, j'adore son personnage. Parce que je trouve que c'est un bon... méchant entre guillemets, mais d'avoir vu ce passage, ça m'a brisé le cœur et ça m'a fait vraiment de la peine de voir que des gens étaient vraiment contents de voir ça à la télé, parce que je trouvais ça dégueulasse. Je comprends pourquoi c'était là, mais c'est, je sais pas, c'était gratuit aussi, on n'avait pas besoin de voir ça en fait.
Je sais plus quand est-ce que j'ai lu ça doit remonter à quand même plusieurs années. Et d'ailleurs, attends, je vais plugger un livre qui est vraiment pas mal. C'est un livre qui s'appelle Petit éloge des anti-héroïnes de série, et de Anaïs Bordage et Mary Telling. Et en fait, dedans, elles font, comme le titre le dit, l'éloge des héroïnes un peu détestées des séries. Et dedans, en fait, il y a Sansa. Et Sansa, en fait, et ça c'est vraiment abordé dans le livre, mais ça fait partie d'une réflexion qui est plus grande, qui est que Sansa était tellement détestée, en fait, de l'auditoire, surtout masculin, qu'il a presque fallu lui faire payer, en fait, son comportement d'adolescente, hein, parce que rappelons que c'est une enfant, c'est une adolescente, ok, elle est objectivement insupportable, genre vraiment, on peut le dire. Mais c'est une enfant, tu vois. Mais c'est comme si par, tu vois, les viols à répétition qu'elle a vécu, etc., Stannis voulait presque dire au spectateur, regardez, elle a souffert, elle a payé pour ses péchés, maintenant, aimez-la. C'est comme une sorte de rite de passage ou de rite de purification du fait d'avoir été chiante.
Non, les scénaristes, ils sont très pervers. Et puis même, Emilia Clarke a raconté qu'elle avait eu une mauvaise expérience pour ses scènes de sexe, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, quand t'avances dans la série, tu la vois plus trop nue parce que c'était une mauvaise expérience, quoi, pour elle. Dès que Sophie Turner, qui interprète Sansa, a eu 18 ans, mais direct, une petite scène, hop là, et c'était pas une scène super cool, quoi.
Mais est-ce que la violence que se prennent les femmes dans la série est équivalente à celle que vivent les personnages masculins ?
Je trouve pas, parce que je considère l'humiliation comme de la violence. Et je trouve que la violence au personnage masculin vient toujours de la guerre. Ça vient pas comme ça, genre... Alors que pour les femmes, c'est vraiment... je pense, en saison 1, Robert Baratheon fout une gifle à Cersei comme ça, totalement gratuitement. Tu vois, il y a aucun contexte, il met une gifle comme ça, bam. Et les hommes, c'est toujours... c'est la guerre, on va se prendre 2-3 tarnioles avant de se faire peut-être tuer. Et c'est tout.
Bah écoute, parlons d'un autre sujet polémique. C'est un bien grand mot, mais comment est-ce que ça se passe au niveau de l'ambiance chez les fans virtuels de Game of Thrones ?
C'est une ambiance affreuse. C'est vraiment la pire fandom que j'ai jamais vue de ma vie. Et pourtant, j'ai été dans des fandoms de fous. Tu vois, Star Wars, franchement, c'est tous des fous là-dedans. Et Harry Potter aussi... Des fois, il y en a, ils sont un peu zinzin, hein, mais Game of Thrones, oh, pas un pour rattraper l'autre, c'est horrible. Et c'est surtout avec House of the Dragon et tout ça, parce que Game of Thrones encore, on en a parlé brièvement, les hommes sont un peu bizarres avec le traitement des femmes à la télé. Mais alors autant dans House of the Dragon, mais je crois que j'ai jamais vu de gens aussi mauvais.
Entre eux ou...
Entre eux, avec les personnages, avec les acteurs... J'ai jamais vu ça de ma vie, franchement, c'est ridicule et franchement, c'est une honte d'être comme ça, je trouve. Bah, par exemple, je vais prendre Matt Smith, tu vois. Matt Smith, alors c'est pas le canon si on suit les dictats de la société, tu vois. Il n'y a pas à dire, ouais, on dirait un produit de l'inceste, il est moche, il ressemble à rien. Enfin, j'ai vu des insultes à son égard, tu sais, vraiment virulentes, en sachant qu'il y a sa mère sur Twitter, et moi, ça me fait trop de peine de lire des trucs comme ça. Oui, sa mère s'est fait attaquer parce que les gens sont même pas capables de faire la différence entre un personnage fictif, donc Daemon, et quelqu'un qui est réel, donc Matt Smith. Et il y a eu plein de gens qui ont dit à sa mère « Ouais, ton fils, c'est un violeur, c'est un pédophile, c'est un groomer et nanana. » Mais non, les gars, mais vous êtes complètement malades.
C'est par rapport à son rôle dans House of the Dragon. Les gens font pas la part des choses entre...
Ils le font pas. Mais déjà, dans Game of Thrones, ils le faisaient pas tellement parce que je me souviens que celui qui interprète Joffrey, j'ai oublié le nom de l'acteur, il était mais détesté et il a arrêté d'être acteur à cause de ça. Et pareil pour Lena Headey qui interprète Cersei, pareil, dans la vraie vie, elle était détestée, mais elle s'en fout, tu vois, genre elle s'est dit, bon bah je fais bien mon travail. Mais je trouve que c'est super grave d'être comme ça. Emma Darcy, qui joue Rhaenyra Targaryen, adulte, des insultes sur son physique et tout ça, enfin pareil. Lord Corlys, dans House of the Dragon, qui est joué par Steve Toussaint. Bah alors, faut voir quand il a été annoncé au casting, parce que les Velaryons dans le livre sont blancs, et du coup ils ont pris un acteur qui est noir. Bah alors là, mais c'était vraiment la fin du monde, hein. Les gens n'en pouvaient plus. Alors le racisme, c'était un truc de ouf. Enfin désolé, mais je vide mon sac. On devait vraiment rester sur Game of Thrones, mais là on part sur House of the Dragon, mais parce qu'on parle du fandom, mais moi je trouve ça ridicule.
Mais ça m'intéresse, parce que c'est indissociable finalement.
Oui.
Par exemple, je citais Succession, je ne serais jamais mise à cette série si... Bah, j'écoutais un autre podcast, ils en parlaient, et ils en parlaient avec une telle passion que j'étais là, genre, ça peut sembler intéressant. Puis ensuite, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et les gens n'avaient que des éloges. Je me suis dit, ok, je vais commencer à regarder. Tu sais, tu finis un épisode et t'es là genre, oh, t'as beaucoup de trucs en tête et t'as envie de partager un peu cet étonnement, cet émerveillement et aussi tes questions avec d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à suivre des comptes qui eux suivaient la série, et c'est toujours une super belle expérience de suivre un peu tous en même temps un même épisode, de découvrir un peu les choses en même temps. Donc pour moi c'est indissociable en fait, parce que même il y a des choses que t'as pas compris dans la série ou que t'as juste même pas relevé, et tu vas aller sur internet et tu vas avoir des personnes qui vont faire des séries de tweets dessus, et tu vas être là genre oh my god, j'avais pas du tout vu ça comme ça, en fait ouais ça fait sens. Donc l'un bonifie l'autre en fait, donc il faut que cette expérience soit quand même positive. Et du coup ça me pousse à te demander, est-ce que tu retires quand même quelque chose de positif de ton immersion virtuelle dans le monde de Game of Thrones / House of the Dragon?
Oui, quand même, parce que, tu sais, on est passionnés, du coup, ça fait plaisir de rencontrer des gens qui vont penser comme toi, qui ont eu la même interprétation, ou même quelque chose de totalement différent, mais tu sais, mais qui sont pas agressifs, et qui vont échanger avec toi, et on va essayer de se comprendre un peu mutuellement. Je me faisais harceler pour rien, tu vois, et c'est de la fiction, c'est une série, on s'en fout. Un fandom, c'est fait pour échanger, pour dire ce que tu penses. Donc je comprends pas pourquoi les gens vont insulter les autres, parce que déjà ils pensent pas pareil et en plus ils aiment pas des personnages. Enfin, et oui, j'ai rencontré des personnes qui sont formidables, franchement. C'est la seule chose que je retiens de positif, parce que la plupart du temps je regrette vraiment d'être rentrée dans le fandom. Franchement, c'est un regret vraiment.
Thank you. On va parler des choses qui fâchent.
Oh non.
De la chose qui fâche.
C'est rendez-vous chez le psy, là.
C'est ça. Il faut s'allonger sur le divan. Je prends mon carnet.
Vas-y.
C'est parti.
Oh là là.
Qu'est-ce qui a tant posé problème dans la saison 8?
Ah, je... Franchement, je ne sais pas, il y a eu un bug quelque part. Je ne sais pas à quel moment quelqu'un s'est dit chez HBO. Alors ça, c'est vraiment le scénario...
du siècle.
Du siècle. Et il faut absolument que notre poule aux œufs d'or finisse comme ça. Alors franchement, il n'y a pas meilleure fin.
C'est quoi les griefs là dans les faits? Qu'est-ce qui s'est passé de scandaleux dans cette... saison finale.
Mais tout est scandaleux du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui va, c'est pas possible. C'est des personnages, je ne les connais pas ces gens-là. Ah, c'est une catastrophe. Mais je sais pas ce qui s'est passé vraiment. La saison 7, ça commence. Tu voyais déjà que ça commence à vriller un petit peu, mais il y a des choses qui vont. Mais dans la saison 8, mais il n'y a rien. C'est le néant. Tous les personnages, l'écriture, c'est pas la même, ça ne va pas, c'est débile comme tout. Alors autant avant c'était très intelligent, mais là tout est bête. Oui, les effets spéciaux sont jolis, mais ça fait pas tout à un moment donné. La musique est belle, encore heureux j'ai envie de te dire, mais franchement, tout est nul quoi. Oh, alors pour le coup, on se plaint que Game of Thrones c'est très très lent, bah alors la saison 8 franchement c'était même un peu trop rapide.
Même si je boudais encore la série à cause de la saison 4, j'ai pas pu m'empêcher de regarder certains extraits. Et en fait, pendant l'entièreté de la série, t'as ce mythe des marcheurs blancs. T'as ce mythe de l'hiver arrive, winter is coming. Genre, même les gens qui connaissent pas Game of Thrones connaissent la phrase winter is coming. Et avec l'hiver, le peuple de glace, donc les marcheurs blancs, on sait pas trop qui ils sont, une sorte de zombie surnaturel. Il y a vraiment tout un mystère autour de ça qui est réglé en un épisode, il me semble. Et comme tu les vois de près, et je crois que c'est Arya qui en tue un. Tu t'attends à quelque chose de grand, de beau, de majestueux, de magistral. Il se passe rien.
Il se passe littéralement rien. Pourtant, c'est la bataille qu'on nous tease, mais depuis limite le premier épisode, tu vois. Tout ça pour ça. Oh là là ! Non mais attends, mais c'est pas possible parce que... Mais ils nous prennent pour des cons, hein, vraiment.
J'ai réactivé ta colère.
Ah ouais, non mais là je suis trop énervée. Parce qu'en fait, je repense même à House of the Dragon, qui est le préquel. Parce qu'en plus, même là-dedans, ils nous teasent cette guerre-là. Mais déjà, quand j'ai entendu ça en regardant House of the Dragon, je me suis dit, ah non, mais alors là, vraiment, ils m'insultent. Là, vous nous teasez encore. Mais pour ça, mais la guerre-là, pourrie. On voit rien déjà,
En termes de luminosité de l'écran.
Ah ouais, en termes de luminosité de l'écran, mais merci pour les dragons qui ont fait le taf, hein, parce que sinon, Dracarys, on voyait rien. Hein. Et en plus, les marcheurs blancs, cet arc-là, c'est quand même l'arc de Jon Snow. Alors moi, je l'aime pas, Jon Snow, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était à lui d'en finir, mais c'était pas à Arya. Donc ça m'a saoulée. Réglé en un seul épisode, comme ça.
Et Daenerys, qu'est-ce qui se passe avec elle?
Elle vrille totalement, et d'un côté, en fait, on pourrait comprendre pourquoi elle devient comme ça, parce qu'elle perd beaucoup en peu de temps. Elle devient ce qu'elle ne voulait pas être. Je pense que son traitement aurait pu passer si ça avait été plus long, encore une fois, en fait. Parce que là, c'est vraiment épisode 1, tout va bien, épisode 2, tout va bien, et puis épisode 3, alors là, c'est bof. Et 4, 5 et 6, ouais, ça finit à 6. Bah alors là, tu comprends pas. C'est vraiment un tournant comme ça. Elle change et... Moi, je lui en veux pas d'avoir... Enfin, je vais être horrible, mais je lui en veux pas d'avoir brûlé Port-Réal, franchement. C'est une ville de merde, hein.
T'aurais fait la même chose.
J'aurais fait la même chose. Il y a pas de souci. C'est pas... Je lui en veux pas d'avoir fait ça, mais c'est la manière dont c'est amené qui me dérange. Et le fait qu'elle meure en plus après, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais vous n'avez rien compris, alors, les gars. Vraiment, c'était horrible. Je l'ai trop mal vécu. Et je pense pas que George parte sur ça dans le livre. Ou s'il le fait, mon Dieu, mais c'est pas possible.
Parce que j'allais justement demander à qui la faute. Est-ce que c'est les scénaristes qui ont pris trop de liberté? Ou est-ce que c'est George qui a écrit tout ça dans son livre?
De mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, Game of Thrones, ça suit jusqu'à saison 5. Et saison 6, saison 7, 8, c'est eux tout seuls, je crois, sans les livres, sans rien. Georges, il a dit, faut plus de saisons. Et il a donné des petits indices, des petits points, tu vois. Mais en soi, ils ont fait à leur sauce, quoi. Ils l'ont pas trop écouté. C'est ce qu'il disait, c'est que moi, on m'écoute pas. Ils font comme ils veulent. Bah...
Il pense quoi de cette dernière saison? Est-ce qu'il s'est déjà exprimé dessus?
Qu'il a dit que ça se finirait pas comme ça dans son livre et que, ouais, il me semble qu'il a pas aimé.
Personne
n'a
aimé.
Ouais, non. C'est pour ça que ça m'a surpris qu'il accepte de faire un. Bah, de refaire une autre série.
Pour un peu expliquer, je me rends compte qu'on n'a pas expliqué un peu House of the Dragon et comment est-ce que ça se s'imbriquait avec Game of Thrones. Bah, déjà, Game of Thrones est sorti avant et se termine avec. Spoiler à ce stade. La mort de Daenerys qui est la dernière héritière des Targaryens, c'est ça?
Exactement, oui.
Et House of the Dragon qui est sorti là, juste en début d'année, c'est une sorte de grand flashback jusqu'aux ancêtres de Daenerys. Et donc ça retrace un peu les derniers instants de vie des Targaryens, je sais pas.
Ça retrace, au moment de la série, c'est l'âge d'or des Targaryens, tu vois. Et cet âge d'or, c'est leur chute. Ils vont perdre, spoiler, leur dragon. En fait, ils vont se détruire entre eux, tu vois. On voit de quoi part Daenerys, quoi. C'est de ça qu'elle a hérité, en fait. Tout ça, c'est... Ouais. Et Daenerys, c'est quelqu'un qui en est fier, hein, de son héritage. Surtout dans les livres.
Donc, ce qui rend un peu la série House of the Dragon un peu triste d'avance, c'est qu'on sait, finalement, le destin des Targaryens. On sait, avec la mort de Daenerys, on sait comment ça se finit.
Bah oui, et c'est super triste. Parce que dans les livres, je pense que ça se finit vraiment avec... pour moi, hein, ça le tease comme ça, du moins, c'est que ça se finit avec Daenerys triomphante sur le trône et qui, voilà, qui récupère ce que ses ancêtres ont perdu. Elle ramène les dragons. On n'a plus vu de dragons depuis House of the Dragon. et t'as plus vu non plus la grandeur de cette famille. Parce qu'ils perdent de tout après House of the Dragon. Hein. Et donc, quand tu regardes House of the Dragon, et tu vois les dragons, t'en vois plein. Il y a plein de Targaryens partout, c'est marrant. Ils ont tous les cheveux argentés, c'est cool. Et tu te dis, là, ils sont en train de se détruire littéralement. Et à la fin, ça finit avec quand même Daenerys qui meurt. Je trouve que c'est super triste quand tu y penses, en fait.
Comment est-ce que t'as fait pour pousser ça de côté, pour commencer House of the Dragon?
Non, je peux pas l'avouer. Parce que attends, c'était sorti quand Feu et Sang? Je crois que c'était sorti après
Ils ont annoncé juste après la fin de Game of Thrones qu'ils allaient faire House of the Dragon.
Ouais, et moi j'ai dit, mais MDR, je ne regarde pas ça, c'est mort. Après je me suis calmée, j'ai revu Game of Thrones. Bon, mais revoir, ça m'a fait du bien, mais ça me mettait toujours en colère et j'avais toujours, tu sais, ça passait pas. Et après est venue l'annonce, on avait les photos du casting, on avait des photos des behind the scenes et tout ça, et je me suis dit, oh là là, parce que j'ai vu les perruques, et j'ai dit, mais c'est quoi ça, c'est trop moche. Les costumes et tout, ça me plaisait pas du tout, enfin j'étais une grosse rageuse, hein, vraiment. Et après il y a eu la bande-annonce, et je me suis dit, ouais, peut-être, ça a l'air pas mal. Et après, j'ai entendu, ils ont foutu la petite musique du générique de Game of Thrones dans la bande-annonce et je me suis dit, allez, bâtard. Et je me suis dit, non, mais je regarderai pas, je me laisserai pas avoir. Et vraiment, je ne comptais vraiment pas la regarder jusqu'au jour où l'épisode 1 sort et je vais sur Twitter. Et en fait, ils me balancent la scène. Non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Non, en fait, ils ont posté la première scène de Daemon et Rhaenyra sur Twitter, et en fait, je la vois. Et je me dis... ok, bon.
C'est une scène où, pour préciser, il lui offre un collier. Mais précisons encore plus, ce sont... Ce sont deux Targaryens Donc...
Ouais, mais ils ne sont pas frères et sœurs. Il y a de l'évolution, ça va.
Il y a de l'exotisme ici. Ils sont oncles et nièces.
Ah bah, on est original, hein.
Donc, t'as vu cette scène?
Ah ouais, et je me suis dit...
Ding, ding, ding.
Ding, ding, ding. Ça a l'air pas mal. Et le soir, bah, parce que mon père avait regardé Game of Thrones, et pareil, il avait adoré, sauf la dernière saison, bah voilà, on partageait même avis, et il me dit, ah bah, regarde, il y a House of the Dragon avant Game of Thrones. Et je dis, bon, puisque t'insistes, et on lance l'épisode, et tu sais, il y a le petit fond noir avec écrit, voilà, 172 ans avant Daenerys, et tu sais, ça m'a fait... En fait, ça m'a fait du bien qu'il... Tu sais, qu'il l'ait pas oublié, en fait. Tu sais, qu'il précise bien que c'est avant Daenerys. Et tu sais, ça m'a... Ouf, ça m'a un peu apaisée. Et ensuite, la première scène, c'est Rhaenyra sur son dragon qui survole King's Landing. Et tu sais, ça m'a donné un peu envie de pleurer parce qu'en arrière-plan, t'avais le thème de Daenerys qui jouait aussi. Et ça m'a... Ouh, ça m'a touchée, tu vois. Et ça m'a apaisée.
Merci beaucoup Léa d'être passée, c'était une belle conversation.
Bah non mais merci à toi.
C'était cool que tu vides ton sac.
Il y a encore beaucoup de choses à dire.
Je vais te laisser, comme chaque épisode, avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends juste un seul et unique mot qui peut ou non avoir un lien avec cet épisode.
Dracarys.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce 28e épisode d'Univers Alternatif sur la série Game of Thrones. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Pink et Wild Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcasts. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 2 semaines avec un épisode sur la dyslexie.